Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, est-ce que Noël est discriminatoire et colonialiste? Dans sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon nous dit ce qui cloche selon lui dans l'avis de la Commission canadienne des droits de la personne et il souligne une série de jurisprudences récentes qui vont dans le sens totalement inverse sur les questions de discrimination. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Bonjour Guillaume Lavoie.
Antoine Revitaille, bonjour.
Expert en politique publique, atteint d'une sinusite carabinée, il paraît?
Ah oui, écoute, c'est une sinusite d'homme, c'est pire.
On va quand même parler de politique, puis après ça, de vélo-économie. On commence par le lexique des propos non parlementaires. Là, ça, ce sont les mots interdits à l'Assemblée nationale. Moi, j'aime beaucoup ce lexique. Va s'enrichir d'une nouvelle expression, Guillaume, et tu trouves que c'est terrible.
Oui, et là, le pire, c'est c'est pas l'expression elle-même que j'aime. Ça nous vient de la question de Christine Lavrie la semaine dernière, on en avait parlé.
De Québec solidaire, oui.
Oui, de Québec solidaire, qui avait dit que la CAQ ou le gouvernement du Québec exploitait les femmes par ses mesures économiques.
Oui, Guillaume, on peut l'écouter d'ailleurs.
Si ça tient debout, c'est au péril de la santé physique et mentale des gens qui portent les services publics sur leur dos avec des postes précaires, à des salaires plus bas que ce qu'ils pourraient avoir au privé. Le trois quarts des personnes qui travaillent dans nos services publics, ce sont des femmes. Pourquoi la CAQ se persiste à les exploiter?
Et là, tollé, intervention de Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale. Et bon, mais après, qu'elle a été obligée de retirer ses propos. Mais là, on l'ajoute à une fameuse liste. C'est cette fameuse liste de mots non parlementaires. Et c'est comme si c'était une contribution. Là. Est-ce que, comme député, tu as réussi à faire ajouter quelque chose à la liste? Toi, tu adores la liste. Moi, je ne l'aime pas du tout. Je n'aime pas ça. Et parce que... Et l'idée, c'est pas que j'ai pas de révérence envers l'institution, bien au contraire.
Mais oui, il me semblait que c'était toi, l'institutionnaliste.
Oui, c'est ma religion première. Sauf que à partir du moment où tu prends des mots et tu les mets sur une liste, un mot sans son contexte ne veut rien dire. C'est mon problème avec la dérive des woke. Un mot sans libéré de son contexte n'a plus de sens. Par exemple, exploiter les femmes en disant que le gouvernement exploite les femmes, ben, ça n'a pas la même signification que si on parlait, par exemple, de la traite des êtres humains et qu'il y a plusieurs femmes. D'ailleurs, le Canada est une plaque tournante de la traite des êtres humains. Ça m'a beaucoup surpris. Si je parle de l'exploitation des femmes dans ce contexte-là,
oui, mais
c'est plus du tout le même mot. Ce n'est pas la même signification.
Oui, mais tu as vu quand même qu'ils ne sont pas totalement interdits, les propos jugés non parlementaires. Là. La présidence a spécifié ça dans l'article de Thomas Laberge dans la presse canadienne. Elle dit « La présidence a toute la latitude pour interpréter et qualifier les propos tenus par un député ou une députée eu égard aux circonstances. » Donc, dans des circonstances normales certains propos qui sont dans la liste peuvent être utilisés.
Mais c'est là où on ne peut pas en avoir les deux. Là. C'est une chose et son contraire. Ou bien une liste qu'on applique presque de manière, là, comme le droit canon, c'est une approche catholique. Il y a des mots, tu ne peux pas dire ce mot-là. Et dès que tu le dis, là, tu n'as même pas le temps de finir ta phrase que le leader de l'autre côté se lève les bras en l'air en criant « Mon Dieu, scandale ». Si on considère qu'effectivement, c'est le contexte qui fait foi de tout, ben, faisons confiance à la présidence de l'Assemblée nationale pour juger si le contexte le permet.
Mm-hmm.
Généralement,
tu ne voudrais pas qu'il y ait de liste?
Non, je pense que s'il y a une liste, ça permet de tronquer l'esprit. Puis à la fin, si c'est l'esprit qu'on veut juger, mais là, ça ne marche pas. Mais ça, ce sont... Ici, ce qu'on parle ici, Antoine, c'est un... Je suis en train de lire, d'ailleurs, un livre sur l'esprit des règles, l'origine des règles.
Mm-hmm.
Et c'est comme s'il y avait deux approches. Est-ce que c'est les mots et la chose, la lettre, ou c'est l'esprit? Si l'idée, c'est de respecter la parole de l'autre, de respecter l'institution, bien, je n'ai pas besoin d'une liste de mots pour ça. Je ferai un jugement selon le contexte. Mais là, il faut accepter que le jugement peut varier.
Mm.
Mais au-delà de ça, je trouve que plus la liste s'allonge, plus ça tend vers une inclinaison qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est d'essayer de mettre, là, d'emballer les députés dans de la ouate, là, pour pas qu'il y ait un débat qui me fasse de la grosse peine.
Oui.
Pour pas dire des mots qui seraient méchants.
Mm-hmm.
Et là-dessus, il y a une dérive de sensibilité hors norme, tant chez le leader du gouvernement, M. Simon-Jolin Barrette, qui utilise ça à mort.
Mais je suis d'accord avec toi, ils sont un peu des... Tu sais, on l'a dit l'autre fois, là, ils sont un peu comme des joueurs de soccer italiens, parfois. Là. Ils reçoivent...
Oui, oui,
on les effleure, puis ils se tordent de douleur par terre. Ça, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'aime bien quand même la liste, parce que, tu sais, je la vénère pas non plus, là. C'est assez paradoxal, parce qu'en même temps... Les députés, ils ont droit de dire tout ce qu'ils veulent à l'Assemblée nationale. Hein? Ils peuvent, oui, pas être poursuivis pour rien.
Eux-mêmes.
Non, mais ils peuvent, ils peuvent tout dire. Là. Ils peuvent pas être poursuivis en diffamation, par exemple.
À
l'intérieur du Salon Bleu. C'est pour ça que souvent, on les somme d'aller dire les choses à l'extérieur. Et souvent, ils s'abstiennent à l'extérieur parce qu'ils ont peur aux poursuites. Donc, c'est paradoxal. Ils peuvent tout dire, mais sauf certains mots. Et moi, je pense que ces mots-là, ça police... Ça police le discours.
On a déjà des...
Parce que sinon, on aurait toujours l'opposition qui dit « Le gouvernement ment. Le gouvernement raconte des mensonges et tout ça. » Donc, ça force... Cette limitation du vocabulaire à la paradoxale... Et le paradoxal est fait souvent de forcer le parlementaire à s'exprimer plus clairement puis plus dignement.
Mais on a des postures institutionnelles pour ça. D'abord, on ne parle pas à l'autre directement. On le fait par le truchement de la présidence.
Ouais.
Ça met un peu une distance. Il y a le vouvoiement. On n'utilise pas le nom de la personne, mais le titre. Mais quand c'est rendu qu'il faut mettre sur la liste qu'on ne peut pas dire le mot « tartuffe » ou « tartufferie », là, passons là au déchiqueteur Molière au grand complet.
Mais il y en a des drôles, c'est vrai. Puis, tu sais, girouette. Mais moi, je remarque dans les dernières années que les présidents font très attention pour pas engraisser cette liste-là, alors que d'autres, dans le passé, je pense à Michel Bissonnette, justement, qui a condamné girouette, ben lui, il en a ajouté énormément, là.
Ouais. Moi, j'avoue qu'à date, je fais partie de ceux qui trouvent que la présidence de Mme Roy est aussi un l'épiderme beaucoup trop sensible par rapport à des débats plus durs. Moi, la chose dont je suis incapable, c'est ce sont des propos qui peuvent être blessants.
Ben oui.
Clairement, on s'en sert
comme
des joueurs de soccer, oui, italien, tant t'as raison.
Mais en même temps, c'est une demande de la population qui s'offusque dès que les débats dérapent. Donc, on veut vraiment éviter... les dérapages, et parfois ça donne des débats peut-être plus ennuyants, moins mordants.
Oui, c'est ça. Sans sel, sans goût. À un moment donné, si on enlève la température du Parlement, c'est comme quand ils vont des gens du Environnement Canada, ils parlent de la météo comme si la météo n'était pas dehors. À un moment donné, il faut que ça vienne avec. Là.
C'est lundi, c'est notre rendez-vous Vélo Économie. Donc, tu veux nous parler aujourd'hui de l'impact de ce que tu appelles la véloéconomie sur le marché du travail.
Oui, et c'est fascinant parce que C'est la preuve que le vélo, là, c'est pas quelque chose dans une bulle, là, parce que tout ce qui vient avec du vélo a des impacts énormes sur l'ensemble de la structure économique. La structure économique, c'est aussi beaucoup le système d'éducation qui vient en amont. Alors, tout part du point que c'est un marché où il y a énormément de vélos, beaucoup plus qu'avant. Je te partage quelques chiffres, Antoine. Mm-hmm. Alors, en 2023, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 80 millions de voitures produites, des voitures neuves à travers le monde, et 145 millions de vélos. Alors, il y a pas mal plus de vélos que de voitures. C'est le cas au Québec également. Il y a 10 % de plus de vélos que de voitures au Québec. Et pour te dire, en termes de dollars, là, les Québécois achètent des vélos ou des accessoires vélos, là, mais vraiment proches de la chose, pour à peu près un demi-milliard par année. Alors, et ça, c'est des chiffres de 2020. Alors, imagine aujourd'hui, c'est sûrement beaucoup plus. Et lorsque l'on parle de la réparation de ces choses-là, l'histoire se répète. Quand la voiture s'est démocratisée, ben, il a fallu inventer, créer, former des nouveaux emplois, des réparateurs de voitures, de la mécanique automobile comme un programme de formation. Ça n'existait pas. Au départ, c'est les fabricants qui formaient des mécaniciens eux-mêmes. Puis par la suite, ben, les gouvernements, à travers les programmes de formation professionnelle, ont fait la même chose. Bien, on est en train de vivre le même défi et le même jeu avec le vélo.
Oui.
Et là, tu vois, il y a les programmes au Québec de formation professionnelle qui sont très, très, très importants, qui sont gérés au niveau des commissions scolaires ou autrefois, jadis, les commissions scolaires. Maintenant, les centres de services. Et là, il faut que je te parle d'une histoire de ce que j'appelle, moi, de l'entrepreneuriat en politique publique, un pionnier. C'est l'histoire de Cyclochrome à Montréal. Mm-hmm. Cyclochrome, c'est une entreprise d'économie sociale. Il répare les Bixi et les vélos du SPVM. Ah. Et en partenariat avec la commission scolaire de Montréal à l'époque, ils ont créé le premier programme au Québec de mécanique vélo. Alors, c'est une attestation d'études spécialisées. Tout ça est approuvé par le ministère de l'Éducation du Québec. Mm-hmm. C'est une formation de 645 heures. Et les gens qui font ça, je parlais à certaines des personnes qui dirigent ces programmes-là, taux de placement 100 % est vraiment intéressant, là, parce que c'est des gens qui peuvent être passionnés de mécanique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la mécanique vélo, c'est tout en précision, là. C'est beaucoup plus précis que ce qu'on pourrait imaginer. C'est des gens qui sont passionnés par la mécanique, par la précision. C'est de la mécanique propre, hein. Il n'y a pas de changement d'huile ou de trucs comme ça.
Oui, bien là, écoute, la chaîne n'est pas propre là.
Oui, mais comparé à de la mécanique automobile pure, là, tu peux t'en sortir avec une petite paire de gants.
Moi, j'ai tout le temps les mains tellement sales quand je bisoune sur mon vélo.
Ah oui, mais
sur mes vélos.
Les gens disent que c'est parce que je n'ai pas encore le truc, là. Mais écoute les salaires, Antoine.
Ah oui.
Et là, gardons en tête là, ce que nous dit toujours le premier ministre Legault, là, que ça prend des emplois payants et autres.
Comment? Non, il ne dit pas ça comme ça. T'es bon, toi, dans l'imitation. Payant!
Des payants! On va mettre l'accent. Alors, écoute, un mécanicien vélo, sans expérience aucune, 18 $ de l'heure.
Ah oui.
Avec expérience, ça joue de 25 à 27 $ de l'heure. Là.
Ben oui.
Et c'est encore très saisonnier, mais de moins en moins, on en avait parlé, la montée du vélo là, dans les saisons hivernales.
Ouais.
Et là, l'exemple de Cyclochrome et de Montréal est en train d'en inspirer d'autres, entre autres Kidiko. Tu sais, Kidiko, c'est ce magasin de vélo, une chaîne de distribution de vélos. Eux, ils existent depuis 1915 au Québec. Et eux ont fait un partenariat avec le centre de services scolaires de l'ancienne commission scolaire des Moulins à Terrebonne.
Mm-hmm.
Et là, ils sont rendus à leur deuxième cohorte. Et eux, c'est l'entreprise qui fournit les lieux. Hein, ça se fait dans son centre de distribution. Ils fournissent les profs parce qu'eux ont les experts en mécanique vélo. Et ils me disent que ça marche, mais très, très bien. Là. Et là, le défi extraordinaire pour la suite, c'est qu'il faudrait en avoir un peu partout au Québec, parce que là, il y a un manque dans le marché, il y a une pénurie gigantesque. Les vélos sont de plus en plus chers et de plus en plus complexes. Alors, c'est pas vrai que toi, avec ta clé à molette dans ton sous-sol, tu peux nécessairement y arriver.
Ouais.
Et dans le fameux programme de
600... Quand on part en voyage en vélo, là, Guillaume, il faut amener un vélo qui se répare facilement.
Oui.
Ouais. Mais, par exemple, moi, je partirais pas avec des freins hydrauliques. Je partirais avec des freins mécaniques.
Où il y a même des dérailleurs électroniques.
Ah oui, ben oui.
De plus en plus dans les services d'accueil. D'ailleurs, Antoine, ce genre de développement-là, d'une professionnalisation de la mécanique vélo. Mm-hmm. C'est certainement la norme maintenant pour les formations professionnelles en France. Au Minnesota, aux États-Unis, c'est extraordinairement important. Et là, je te disais...
Pourquoi le Minnesota, programme... c'est important comme ça?
Ben, c'est un peu... Ben, il y a un très, très gros détaillant indépendant qui est là.
Okay.
Qui a un peu inspiré Kiliko, qui a dit, ben moi, j'ai des experts chez moi, puis je vais faire des partenariats de la formation professionnelle. À un moment donné, c'est le bout de la chaîne. Mm-hmm. De plus en plus de vélos, des vélos qui coûtent de plus en plus cher, de plus en plus complexes au plan mécanique, ben tu vas avoir besoin des gens pour les réparer.
Mm-hmm.
Alors, à un moment donné, le monde s'ajuste exactement comme l'histoire de l'automobile. Alors, je disais que le programme, c'est 645 heures, il y a 13 points importants, mais il n'y a pas vélo électrique dans le programme.
Ah bon?
Là, et c'est un énorme problème comme une énorme opportunité. Kiliko me disait que 60 % de leurs ventes, c'est des vélos électriques maintenant. Et là, ça veut dire que c'est une norme qui doit se voir à peu près à la grandeur du Québec. Là. Le vélo électrique est devenu une portion gigantesque du marché vélo. Donc, des vélos plus complexes aussi, plus compliqués à faire réparer. Alors, le défi pour le ministère de l'Éducation du Québec maintenant, c'est de se dépêcher de dire, OK, on avait une attestation d'études spécialisées, il faudrait que ça devienne un DEP, plus d'heures, avec le module vélo électrique là-dedans. Alors ici, on a un défi de politique publique pour être capable d'harnacher le potentiel économique du vélo, prendre des programmes de formation professionnelle à la hauteur des bidules.
En passant, c'est la même chose pour ce qui est des véhicules électriques. Ça prend des mécaniciens qui sont capables, puis on est en train d'en former une masse, là.
Oui, puis j'imagine que tout le monde doit se dire qu'il est évident que le ministère de l'Éducation devrait se grouiller pour la mécanique de voitures électriques.
Mm-hmm.
J'espère qu'ils ont le même esprit
empressement,
d'urgence pour le vélo électrique. Là-dessus, j'étais très heureux de voir qu'il y avait eu le développement qui a émergé du marché. Hein.
Ouais.
C'est ça qui est le génial de la formation professionnelle. Il y a vraiment un partenariat et un leadership qui part du marché des employeurs. Et on a besoin d'ajuster ça rapidement.
Mm-hmm.
Là, maintenant, il faut le professionnaliser davantage.
C'est bon.
Ça nous prend un DEP un peu partout au Québec.
Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Puis on se reparle demain.
Au plaisir.